Vous écoutez RTL.
Tout de suite, un nom qui sonne comme une révolution dans le monde de la télévision, Netflix. Salut Laurent Marsic.
Bonjour.
Salut Laurent, bienvenue.
Ça va bien, on est content de vous retrouver dans la curiosité. Juste pour comprendre ce que représente cette société américaine aujourd'hui, c'est quoi les séries phares produites par Netflix?
Là, on entend le générique de House of Cards, ouais, par exemple. Vous avez des séries comme Stranger Things, qui est une série fantastique, on l'expliquera tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi The Crown, qui raconte l'histoire de la reine d'Angleterre, Narcos, qui raconte
l'histoire aussi.
Des cartels.
Orange is the New Black.
Exactement, aussi. Voilà. Toutes ces séries-là sont des séries qui sont vues par les 190 millions d'utilisateurs de Netflix.
Ça fait pas mal.
Netflix qui a décidé de virer Kevin Spacey de la série House of Cards. On vous raconte comment dans un court instant sur RTL.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes. RTL.
Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL. Vous écoutez RTL.
RTL.
La question à 12 millions de dollars maintenant. Netflix va-t-il tuer la télévision traditionnelle ?
Aux États-Unis, Netflix représente 30% du trafic Internet en soirée.
Quelques dizaines de séries américaines, certaines très connues comme Mentalist, Dexter, Prison Break ou Gossip Girl.
Avec ce qu'on appelle le streaming, vous savez, c'est la lecture de films à la demande.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Netflix dans les journaux sur RTL avec Bernard Poiret, Julien Cellier, Sophie Jousselin, François Langlais. Netflix qui fête ses 20 ans, c'est pour ça qu'on en parle dans la curiosité. Mais que change cette plateforme de vidéo en ligne au monde de la télé? C'est ce que l'on découvre avec Laurent Marsic, journaliste au service culture sur RTL. On va faire un tout petit peu d'histoire de la télé et de Netflix, créé en 1997. C'est quoi au début?
Au départ, c'est un service de location de vidéos, alors pas en ligne, vidéo par la poste, c'est-à-dire que les gens
à l'ancienne,
recevaient.
Quoi.
Et alors, ils avaient le droit de garder les films de façon illimitée avec un nombre de films limité, lui, par contre. C'est-à-dire vous pouviez commander, par exemple, 5 films et vous pouviez les garder autant de temps que vous vouliez. L'idée de génie des deux créateurs de Netflix, c'est que ça, c'était déjà avec un service par abonnement. C'est-à-dire vous payez entre 20 dollars à peu près et vous pouviez commander ces films qui arrivaient par la poste.
Donc ça fidélisait déjà.
Exactement.
Comment Reed Hastings, donc les deux créateurs de Netflix, et Mark Randolph ont-ils pris le virage numérique?
En fait, ils ont... Il y a une légende, parce que Netflix, il y a beaucoup de légendes en fait qui entourent Netflix. On a du mal à vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'il y a une grande culture du secret. En fait, Reed Hastings raconte qu'un jour, il a eu une amende de 40 dollars à payer parce qu'il avait rendu en retard un DVD. Donc c'est comme ça que lui est arrivée cette idée d'avoir cet abonnement en fait mensuel où les gens ne seraient pas pénalisés. Ensuite de ça, ils ont commencé à faire un essai au début des années 2000 en proposant un premier film à télécharger. Il fallait 16 heures pour télécharger le film. C'était les débuts d'Internet.
Oui.
Et ensuite, ils ont décidé de basculer, c'était aux alentours des années 2010, où là, pour le coup, ils ont proposé en plateforme de téléchargement, donc on pouvait visionner en ligne, c'est ce qui s'appelait du streaming.
Alors je sais pas si c'est une légende du storytelling comme on dit aussi, mais Reed Hastings est un passionné de maths et a priori ça lui a beaucoup servi pour Netflix. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte?
Ça lui a permis de pouvoir créer autre chose avec son camarade qui s'appelle l'algorithme de Netflix, qui est une grosse machine. Enfin, ce sont des ordinateurs qui sont installés là où ils ont créé Netflix, à Los Gatos aux États-Unis. Personne, à ma connaissance, n'a pu aller voir là-bas. Moi, j'ai demandé plusieurs fois à pouvoir aller là-bas. Ouais. J'ai pas eu de réponse.
Toujours cette culture du secret.
Voilà. En fait, cet ordinateur, c'est l'autre idée de génie de ces deux créateurs. C'est que quand vous êtes abonné à Netflix, au début de votre abonnement, vous remplissez votre fiche et on vous demande qu'est-ce que vous aimez. Les films de cow-boys, là où les cow-boys gagnent, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. J'aime bien les films avec des poneys, j'aime bien les films, etc.
On connaît tous vos goûts maintenant.
Exactement. Et bien cet ordinateur, connaissant mes goûts, va ensuite, si vous voulez, personnaliser mon expérience Netflix par rapport à ce que moi j'aime.
Et vous proposer des films, des séries.
En fait, il va faire mieux que ça. C'est qu'il va imaginer ce qu'éventuellement je pourrais aimer. C'est-à-dire que si, par exemple, je regarde... L'autre jour, j'ai regardé Gravity. Et à la fin de Gravity, il me propose automatiquement d'autres films sur le même thème.
Et ça pose des questions sur la création des séries. Tiens, par exemple, celle-ci, l'une des plus connues, House of Cards.
Le peuple américain ne sait pas ce qui est bon pour lui. Moi, je le sais. Je sais exactement de quoi ils ont tous besoin. Ils sont comme des enfants, Claire.
Nous devons tenir leurs petites mains poisseuses et essuyer leurs petites bouches dégoûtantes.
Le personnage de Kevin Spacey, on va y revenir. À quoi les algorithmes ont servi est-ce que ça a servi avant la conception de cette série? Vous voyez ce que je veux dire? On sait ce que les téléspectateurs veulent, donc on va leur offrir tel personnage, etc., etc.
Alors, ce que raconte Netflix, c'est que pour la création d'House of Cards, ils disent que ça a été la première série qui a été créée grâce à ce qu'ils appellent le Big Data. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient remarqué qu'une large partie des utilisateurs avaient déjà regardé et aimé beaucoup la série d'origine qui s'appelle House of Cards, mais qui est une série anglaise. Ils avaient remarqué que ces utilisateurs qui avaient regardé House of Cards aimaient beaucoup regarder des films avec Kevin Spacey et aimaient beaucoup aussi regarder les films de David Fincher, qui est le producteur de House of Cards. Et donc, en réunissant ces trois choses-là, Netflix dit c'est comme ça qu'on a créé House of Cards.
Et elle arrive comment, Robin White Penn?
Alors, la vérité, en fait, parce que c'est ce que raconte Netflix, en fait, la vérité, c'est qu'en 2007, Fincher est en train de terminer l'histoire de l'étrange histoire de Benjamin Button. Son équipe lui parle de cette série anglaise House of Cards, il contacte Kevin Spacey avec qui il a déjà travaillé sur Seven, et pour Robin Wright, c'est à cause de Millennium. Donc il réunit ces trois-là, il fait le tour des chaînes. En fait, il veut pas faire de pilote comme on fait dans toutes les chaînes de télévision, c'est-à-dire de d'abord faire un essai, un épisode, et ensuite on accepte de faire une série si ça marche. Lui, il veut faire une saison. Il fait le tour, personne n'accepte. Et Netflix lui dit, écoutez, nous on est OK, on vous pose $100 millions sur la table. Vous faites ce que vous voulez, on signe pour 2 saisons. Et en fait, s'ils lui disent ça, c'est parce qu'ils ont, eux, fait des études, donc grâce à ce fameux algorithme, et ils ont remarqué qu'effectivement, là, ils avaient les 3 ingrédients qui allaient faire que cette série pouvait fonctionner, bon. En tout cas chez leurs utilisateurs.
Et Kevin Spacey va disparaître de la série, on explique pourquoi tout de suite dans un instant. Et puis on raconte aussi comment Netflix nous regarde finalement en même temps que nous, on regarde les programmes de Netflix.
Vous écoutez RTL.
Netflix fête ses 20 ans et fait l'événement, bon, un peu involontairement, avec l'affaire Kevin Spacey. On en parle avec vous, Laurent Marsic. On parle de cette plateforme de vidéo en ligne et de ce héros, Kevin Spacey, qui incarne ce président de la République, ce président américain Underwood dans House of Cards. Il est accusé d'agression sexuelle par plusieurs hommes, dont des mineurs. Comment Netflix gère-t-elle le scandale?
Alors, elle a viré tout simplement Kevin Spacey en disant qu'il ne participerait plus à aucune production d'House of Cards avec lui. Il y avait un petit doute sur savoir si la saison 6 allait bien avoir lieu. C'était prévu de toute manière pour être la dernière.
Mais il n'avait pas commencé de tourner encore là.
Non, pour l'instant, il était en préparation. Et là, d'après CNN, ce sont les dernières informations qu'on a eues, d'après CNN, la production de cette saison 6 devrait être retardée de quelques mois. Il devait finir au mois de mai. Ce qui est sûr, c'est qu'Underwood, donc Kevin Spacey, va disparaître. Est-ce qu'ils vont le tuer comme dans la série originelle anglaise ou pas? Est-ce que ça va permettre à Robin Wright de pouvoir prendre du coup le devant de la scène? Ils ont demandé aux scénaristes de retravailler entièrement cette saison.
C'est dramatique ça pour Netflix, ou cette plateforme de vidéo en ligne arrive à le tourner à son avantage?
Pour le coup, ils s'évitent ce qu'on appelle un gros bad buzz quand même. S'ils avaient continué à tourner avec Kevin Spacey et avec les accusations qui pèsent sur lui, si effectivement tout ça a été confirmé, s'il était condamné, etc., quand même un peu difficile après à vendre.
À justifier.
Aujourd'hui, les chaînes ou les producteurs prennent pas le risque de traîner une affaire comme celle-là comme un boulet. Netflix, on le disait, c'est un géant mondial. Ça pèse combien en chiffre d'affaires?
3 milliards de dollars. Netflix aujourd'hui, ils investissent énormément d'argent puisqu'ils ont prévu d'investir jusqu'à 8 milliards de dollars pour pouvoir produire leurs propres films. Ils ont prévu 80 productions pour l'an prochain, 2018. C'est-à-dire que 80 films, en gros, vous prenez Universal, Disney, 3 studios américains de cinéma. C'est ce que produisent ces 3 studios américains. Netflix va produire beaucoup plus. Ils en sont à 40 là cette année.
Donc c'est vraiment un géant de la télévision et du cinéma et également. Le pays où Netflix est le plus puissant, c'est les États-Unis, avec parfois un impact sur la consommation sur Internet. Vous pouvez nous raconter ça?
Jusqu'à 30% du trafic Internet le soir, puisque les Américains regardent de moins en moins ce qu'on appelle la télévision linéaire, la télévision de papa, comme on a chez nous. Les jeunes ne regardent quasiment plus. Et donc le soir, ils ont des pics de consommation d'Internet jusqu'à 30%.
Qu'est-ce qui change, Laurent Marsic, avec Netflix? C'est qu'en fait, le spectateur devient programmateur, il ne, entre guillemets, subit plus ou n'accueille plus ou n'a plus la surprise du programme qui passe à la télé, justement.
Alors, il n'y a pas de pub, déjà. Vous pouvez même zapper le générique, zapper et arriver directement sur votre série. Vous faites, en fait, votre propre programmation, c'est vrai. Et l'autre avantage de Netflix, c'est l'autre coup de génie, c'est que je peux télécharger éventuellement dans ma tablette ou dans mon téléphone. Je peux commencer à regarder quelque chose chez moi, poursuivre éventuellement dans le bus ou dans le métro et terminer, je vais pas dire au boulot, mais terminer là où vous êtes. C'est-à-dire que Netflix vous accompagne partout où vous êtes.
En fait, il crée l'addiction, c'est ça, l'addiction à Netflix.
Il crée l'addiction. En plus de ça, quand vous terminez un épisode d'une série, par exemple, vous avez 10 secondes pour cliquer sur stop parce que sinon l'épisode suivant s'enchaîne et vous pouvez.
Et pourquoi pas un de plus ? Et pourquoi pas un de plus ? Ah, il est 2h du mat.
On est tous tombés dedans. Est-ce que les habitudes des abonnés de Netflix sont les mêmes que ceux qui regardent la télévision à la papa, si j'ose dire? C'est-à-dire qu'est-ce que, si on regarde les programmes du petit déjeuner ou du déjeuner, etc., est-ce que ça se correspond?
Alors, grâce aux algorithmes, ça leur permet de récupérer un nombre incalculable de données. Non, c'est pas la même chose. Le matin, par exemple, les gens regardent plutôt des comédies à partir de 6h du matin. À midi, c'est plutôt tout ce qui est drame, les Narcos, les House of Cards, etc. Et le soir, plutôt les thrillers. Il y a 15% du visionnage qui se passe aussi la nuit, entre minuit et 6h du matin, où là les gens vont plutôt vers des documentaires ou autre chose pour s'instruire. Et nous, on a une particularité en France, c'est qu'après le Japon, on est le deuxième pays, la nuit, à consommer le plus d'animation.
De films d'animation.
Tous les dessins animés, ouais, exactement. Ils ont un catalogue qui est assez sympa.
C'est les grands enfants, quoi.
Les Français regardent ça, exactement.
Alors, quelle est la série Netflix la plus regardée au monde? Je vous dévoile la réponse, c'est Narcos. Et vous allez voir dans un instant sur RTL que ça a quelques conséquences, comment dire, fâcheuses.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Dans ce genre de situation, il faut être capable d'agir. Savoir s'acquitter d'un travail ingrat.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle a omis de mentionner qu'elle couchait avec une lesbienne commandant un réseau international de trafic de drogue.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans 99% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille.
Et tu en fais quoi de l'autre pourcent?
Jusqu'à 15h sur RTL.
Stranger Things, Orange is the New Black, House of Cards, quelques-unes des séries produites par Netflix. Mais Laurent Marsic, dans ces extraits que l'on vient d'entendre, il n'y a pas la série Netflix la plus regardée au monde. C'est donc...
Narcos.
Narcos, ça raconte quoi en deux mots? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais bon.
Alors, Narcos, on est quasi dans du documentaire, mais en fait, c'est de la fiction. Ça raconte, pour les deux premières saisons, la traque de Pablo Escobar et tout le cartel de Medellin par la DEA. Et la saison 3, elle s'intéresse au cartel de Cali et à sa reddition. Et pour fabriquer cette série-là, ils se sont vraiment documentés avec les vrais documents qui circulent, qui existent, pour le coup, autour de Pablo Escobar et de ce cartel de Cali.
Et avec des conséquences, je disais, fâcheuses. Le mot
très,
est faible.
Oui, très fâcheuses. Parce qu'en fait, ils ont assez rapidement reçu non seulement des lettres, mais aussi des coups de fil du frère de Pablo Escobar, qui sentant que Netflix allait faire quelque chose autour de Pablo Escobar, s'est dit il y a peut-être aussi, enfin,
un peu d'argent à toucher.
Ouais, il y a ça, il y a une marque à protéger parce que c'est vraiment comme ça qu'il l'a vu.
Ah, il considère.
Et donc il a exigé $1 milliard de à Netflix pour une sorte de préjudice. Hein. Netflix a refusé. Et le problème, c'est que récemment, un des assistants de la production était en repérage autour de Mexico et a été assassiné. Alors, on ne sait pas s'il y a un lien entre les deux, mais les déclarations des différents cartels qui sont très agacés par cette série, d'abord parce qu'ils ont le sentiment, pour certains, notamment le fils du patron du cartel de Cali, il dit « je suis totalement ridiculisé dans cette série », etc. Ces gens-là, voilà, ont l'impression qu'on se fiche un peu d'eux et que ça ne correspond pas à leur réalité. Et donc, ils menacent. On a vu passer des menaces de la part de ces cartels qui disent à Netflix venez avec vos caméramans, etc., mais n'oubliez pas les tueurs à gages. Voilà.
Ah oui, ça fait froid
donc
dans
il y a quand même une vraie menace qui pèse autour de cette série qui est donc la plus regardée au monde.
Narcos. Et nous, les spectateurs, en tout cas, on est bien au chaud. Chez nous, d'ailleurs, le principe de cette plateforme de vidéo en ligne, Netflix, c'est que l'on peut regarder tous les épisodes d'une nouvelle saison en quelques heures. Ça a un nom, ça s'appelle le binge watching. On pourrait traduire comment cette expression, Laurent Marsic?
C'est du gavage télévisuel, on va dire ça comme ça.
Et c'est quoi? C'est une course de vitesse, c'est ça?
Alors, il y en a deux. Il y a le binge watching, c'est quand je commence à regarder quelque chose et puis j'ai du mal à m'arrêter, je vais finir à 3h du matin.
Ouais.
Et ensuite, il y a le binge watching. On est assez peu. On n'est pas très nombreux à pratiquer ça dans le monde.
Vous êtes dévoilés, oui.
En fait, vous regardez dans les 24 heures l'ensemble d'une saison quand elle est mise sur Netflix. Parce que le tour de force de Netflix, contrairement aux chaînes de télévision, quand ils sont propriétaires et producteurs totalement d'une série, ils proposent l'intégralité de la saison en une seule fois. Tout de suite, vous l'avez. Et donc, vous avez 13 épisodes. Soit vous regardez tout d'un seul coup, soit vous décidez de les regarder de façon échelonnée en disant ce sera un lundi, hein, le mardi, etc.
Il faut avoir du temps quand même pour regarder toute une série en 24 heures.
Un week-end, ça se fait.
Et d'ailleurs, ça challenge, on n'a que des anglicismes aujourd'hui, les médias français. La patronne de France Télévisions a annoncé, ou annonce là dans Le Monde qui est paru cet après-midi, un grand projet en partie pour contrer Netflix, c'est ça ?
Alors, elle voudrait réunir l'ensemble des télévisions et des acteurs de l'audiovisuel public européen pour essayer de monter un Netflix à l'européenne, en expliquant qu'eux représentent 14 milliards d'investissements dans la production et que donc, du coup, ils ont les moyens de pouvoir contrer Netflix. Elle n'arrive pas... Elle avait lancé, ça fait plusieurs fois qu'elle lance l'idée d'un grand Netflix à la française, en associant toutes les chaînes françaises, etc. Ça prend pas. Donc, du coup, là, elle part sur une idée de Netflix à l'européenne.
Merci beaucoup Laurent Marsic. On vous retrouve très vite évidemment sur l'antenne d'RTL. À très bientôt.
Merci à vous. C'est la fin de votre curiosité que vous pouvez réécouter sur RTL.fr pour nous faire découvrir à vos amis fans de Netflix et aux autres.
Vous écoutez RTL.